Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 5, Vivre au Liban, l'Institut Saint-Joseph.
À l'été 41, André Tuboeuf, votre famille et vous quittez la Syrie pour le Liban. Conséquence de la guerre franco-française, votre père a pu finalement trouver au Liban un emploi peut-être plus stable ou moins exposé. Et vous quittez donc la Syrie pour un épisode, je crois, assez fondateur et assez fondamental de votre vie, que sont ces années libanaises.
Mais évidemment, enfin, le Liban y est pour beaucoup parce que le Liban était à l'époque, avant toutes les guerres intérieures qui l'ont déchiré, qui l'ont ravagé, le Liban était une terre montagneuse d'ailleurs, à la fois maritime et montagneuse, mais d'hospitalité, d'ouverture, de jasmin, de lauriers roses, de jardins, de villas ouvertes, d'hospitalité, enfin... qui était vraiment une sorte de visage d'Orient, tel que moi je le connaissais par mes rêves d'enfance et d'arrière-enfance, et par les récits des vieux, mais tel que je ne l'avais jamais expérimenté, et tel qu'on ne le trouvait déjà plus du côté de la Turquie. Donc je peux dire que ça a été pour moi l'entrée dans une espèce de paradis, indépendamment de la beauté du pays, qui était bouleversante de toute façon, et beaucoup plus ensoleillée que ne pouvait l'être, que ne l'avait été le littoral de la mer Noire, sur lequel j'avais passé 5 ans, et qui est quand même quelque chose de plus froid, de plus au nord. Là, c'était la Méditerranée dans sa splendeur, le golfe de Beyrouth, la rade de Beyrouth, la montagne qui est à 10 km de la mer. À 10 km de la mer, on est à 1000 mètres d'altitude, et voilà, et tous les Libanais vont respirer la fraîcheur le soir. Et c'était, en plus, on ne peut pas le dire autrement, ça sera la première période de stabilité de ma vie, puisque j'avais passé 5 ans à Zonguldak, mais dans un état, enfin, de telle incertitude, côté études, côté école, côté avenir, côté la guerre qui se profile, que je ne peux pas appeler ça vraiment une stabilité. Alors que là, j'arrive à ma toute première adolescence, enfin, je vais avoir, j'ai 10 ans et demi en 41. J'ai 10 ans et demi, je vais m'ouvrir au monde, je vais me découvrir moi-même, je vais rester encadré pendant 5 années consécutives, ce qui par mes standards à moi et par ceux de mon chamboulement perpétuel représente quelque chose d'important. 5 ans dans la même école, mais bien entendu, cette école à ce moment-là n'était plus du tout ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire la plus merveilleuse de tout le Proche-Orient, enfin, et un exemple enfin, pour le rayonnement de la culture et de l'instruction française, puisque de même que toute la mission laïque qui avait un lycée à Beyrouth avait plié bagage pour rentrer en France, je veux dire, je pense les syndicats et les inspecteurs généraux les rappelaient. De même, quoique d'une façon un peu différente et pour des raisons un peu différentes, la plupart des pères jésuites qui faisaient la gloire et le rayonnement de l'établissement étaient rentrés en France, ce qui fait que l'enseignement que je trouverai à l'Université Saint-Joseph pendant les 5 années que j'y passerai ne sera pas du tout de même nature et de même niveau que ce qu'on aurait normalement espéré et trouvé. Mais enfin, du moins, cela sera la même école, la stabilité, et non point cette façon de changer d'habitude, de changer de méthode, de changer de... Enfin, d'être dans un pays où la langue est une langue étrangère, enfin, et où on est en quelque sorte de passage. Nous étions de passage au Liban aussi, et je m'apercevrais au bout de 2 ou 3 ans que le Liban non plus n'était pas mon pays et qu'il appartenait à d'autres et que je n'y étais moi-même qu'un hôte et de passage et pas forcément à jamais désirable, peut-être à son tour indésirable là. Mais enfin, pour le moment, le Liban était encore ce protectorat français chez qui la France était absolument bienvenue, où tout le monde parlait français et où toutes les portes nous étaient ouvertes et on nous accueillait véritablement comme enfants du pays. Bon, alors le plus vieux des Français de Beyrouth se trouvait être l'oncle Albert Vernadzin, qui était le cousin germain de mon grand-père. Donc quelque chose d'assez proche et de très établi dans le pays depuis très longtemps, puisqu'il devait y être déjà depuis un grand quart de siècle. Il y avait maison, il y avait sa femme, il y avait son fils était, je crois, déjà parti, mais enfin, sa bru et son petit-fils, il avait ses vieilles sœurs, il y avait un côté patriarcal sous une tonnelle, avec un narguilé et un mangal au milieu de la pièce, c'est-à-dire ces espèces de poils en quelque sorte ouverts, de brasero exactement, enfin, ce brasero qui là-bas était mangal. Et on se voit là, comme Beyrouth est inchauffable, comme tous les pays chauds. On est très frileux dès qu'il y fait froid, mais d'autant plus la famille se resserre, voilà, en buvant du thé, en mangeant des gâteaux et en parlant famille. Donc de ce côté-là, ce n'était pas du tout des paysans, et par rapport aux 3-4 mois que nous venions de passer à Alep, qui est un pays aride, qui est déjà le désert avec la citadelle au bout, et de mauvaises odeurs dans le petit ruisseau qui serpente à sec, réellement, Beyrouth apparaissait comme le paradis terrestre. Mon père avait retenu pour nous une maison, enfin un étage d'une maison. Il y avait un rez-de-chaussée qu'habitait la propriétaire libanaise. Et nous avions un étage qui était spacieux, qui était confortable, qui était aéré. Il y avait des fleurs dans le jardin, il y avait du jasmin à la grille du jardin, il y avait tout un immense bougainvillé qui serpentait, enfin qui s'accrochait à tout l'escalier extérieur, car on descendait par un escalier extérieur et des liserons de l'autre côté. Enfin voilà, on était dans le pays du soleil, de la luxuriance de la végétation et de ce qui même en temps de guerre pouvait apparaître, voilà, comme une espèce de havre de paix. Et inaccessible, je veux dire que, sauf erreur de ma part, c'est juste avant cela, en mai 41, que du côté de El Alamein, la tenaille allemande avait été stoppée, enfin, celle qui descendra d'un côté vers Stalingrad et de l'autre côté essayera de traverser l'Égypte et de remonter jusqu'au pétrole. Donc, la France libre venait de débarquer et de remplacer l'armée régulière qui était repartie côté Vichy. Donc, ça avait toutes les apparences de la paix et d'une guerre dont on se disait qu'elle durait, mais enfin qu'elle ne nous menaçait pas directement, qu'elle ne nous toucherait pas. Plus tard, il y aura sans doute un peu de quelques sous-marins en Méditerranée. Et il y aura d'autres, des menaces de toute façon, mais enfin, nous pouvions nous dire qu'une sorte de cauchemar lié essentiellement au déplacement perpétuel, au déracinement perpétuel, à la rupture permanente, voilà, que cela avait trouvé en quelque sorte son havre. Et en vérité, comme il y avait de vraies écoles françaises et une vraie implantation française, un protectorat français d'ailleurs, on se sentait pour ainsi dire à la maison, beaucoup plus qu'en Syrie, où l'implantation française, protectorat ou pas, était beaucoup moins profonde, enfin dans cette espèce d'immense territoire qu'est la Syrie, le peu de présence française aurait eu du mal à se répandre et à se marquer de la même manière.
Vous aviez dit de façon, je trouve, très frappante que vous étiez à l'époque turque et peut-être même à l'époque syrienne inquiet pour votre père, que vous ressentiez pour lui une inquiétude diffuse qui n'était pas liée à ce qu'il disait, mais à ce que vous perceviez de ce qu'il pressentait ou sentait lui-même. Est-ce que cette inquiétude s'est du coup éteinte ?
Entièrement, oui. Entièrement. Je pense, pour la première fois, je me suis dit, papa est arrivé à destination. Ce qui le tourmentait quand il était en Turquie, c'est-à-dire une échéance à ses yeux inévitable, il faudrait partir. Ce qui le tourmentait encore à Alep, c'est-à-dire nous sommes quand même dans un coin de entre deux chaises. Une fois qu'il a été à Beyrouth, d'abord il était dans un métier qui était le sien, il était revenu au chemin de fer, il était dans une société française, voilà, il pouvait se dire que les choses redevenaient durables et représentaient comme un avenir possible. Je veux dire que mon frère, en 41, mon frère aîné, il avait 15 ans, moi j'allais en avoir 11, voilà, nous étions exactement à 4 ans d'intervalle. Et que ces grands garçons allaient être débrouillés, qu'il y aurait des écoles françaises, qu'il y aurait un suivi français pour eux, qui ne ferait pas d'eux des exilés ou des espèces d'apatrides, des aubains sans feu ni lieu, comme ça aurait été le cas si nous étions restés en Turquie. Donc, comme je pense que l'essentiel du souci qui a dévoré mon père, enfin, pendant ces dernières années de Turquie, tenait essentiellement à notre avenir, à nous, et pas du tout au sien, je pense qu'il s'est trouvé apaisé en se disant, quoi qu'il arrive, les enfants sont dans un endroit où ils peuvent devenir des adultes. Voilà. Donc, d'une certaine manière, non pas nunc dimittis, au contraire, il va falloir bien travailler, mais ce souci-là est parti. Alors, les miens ont commencé d'une certaine manière, parce qu'il y avait une nouvelle adaptation à faire, mais elle a été évidemment facilitée du fait que, comme les jésuites eux-mêmes, sans que je puisse m'en apercevoir vraiment, étaient désorganisés cette année-là, puisqu'on avait laissé sur place, bon, le père Xantakis, qui était un vieux père d'origine grecque, comme son nom le dit bien, qui avait une petite barbe grise et qui nous enseignait à la fois le latin, l'instruction religieuse et l'anglais. Enfin, il ne savait pas beaucoup d'anglais, enfin, il en savait assez pour nous l'enseigner, mais dans d'autres circonstances, ça n'aurait sans doute pas été suffisant. Je veux dire que les jésuites eux-mêmes, tous jésuites qu'ils étaient, ils assuraient, ils faisaient avec, et à nous de faire avec. La différence pour nous, c'est que pour nous c'était tellement merveilleux, c'était tellement mieux que ceux dont nous venions, que de toute façon ça nous émerveillait. Mais j'imagine que tous les autres petits Français, soit ceux qui étaient déjà à Beyrouth et qui restaient, soit d'autres qui ont commencé à déferler et qui étaient les enfants des familles de militaires, les militaires qui étaient les militaires de la France libre, qui normalement auraient dû se trouver à Dakar, et dans l'infanterie coloniale, ou chez les tirailleurs sénégalais, mais qui se trouvaient là dans la France libre avec siège principal Beyrouth. Je rappelle que l'Algérie, à ce moment-là, n'avait pas été libérée par le débarquement américain, et que par conséquent, la seule terre côté Méditerranée, géographiquement, qu'on pouvait mettre dans le rose français sur les cartes de géographie, c'était le Liban. Donc la base, et du reste de Gaulle, a été établie pendant quelques mois, je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas lui qui était le patron réel de cette France libre, puisque le général Catroux, qui avait 5 étoiles, était évidemment son supérieur hiérarchique. Lui-même n'en avait que 2, comme on le sait, mais 2 importantes. Et de Gaulle, pendant un certain temps, sera installé à la résidence des Pins, comme s'il était, voilà, ça s'appelait comment, le gouverneur général, je ne me rappelle pas quel était le titre pour le protectorat. Mais nous étions bienvenus, mais je veux dire par là que les enfants qui, eux, avaient eu leurs habitudes dans les lycées, à Dakar peut-être, ou même venus de France, parce qu'il y avait quand même des gens de la France libre qui venaient directement de France, et pas simplement de l'infanterie coloniale non rapatriée, non revenue à la mère patrie. Eux ont pu trouver les standards des jésuites moindres que ceux qu'ils auraient attendus. On n'y faisait plus de grec, Il n'y avait plus personne pour faire le grec. Le fameux père Pérouse, qui semble avoir été une lumière extraordinaire, surtout sur l'enseignement secondaire tel qu'il se faisait chez les jésuites, était parti. Les meilleurs professeurs étaient évidemment partis. Et restaient bon, les plus vieux, le père Xanthakis, ceux qui étaient malades, il y avait un chimiste qui était poitrinaire, enfin, je ne sais pas si c'est l'expérience de chimie, qui avait respiré quelque chose de travers, mais enfin, mais nous ne pouvions évidemment pas nous en douter. D'un autre côté, il y avait encore une faculté de droit qui était pour ainsi dire sous contrôle français. Il y avait une faculté de médecine qui était pour ainsi dire sur contrôle français et une école d'ingénieurs. Donc, en tout cas pour mon frère qui de toute façon serait ingénieur et qui lui était plus près de l'échéance puisqu'il était déjà lui en première. Eh bien, l'avenir proche, l'avenir de notre formation paraissait assuré. Bon. Alors, je n'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. Une première surprise, et qu'il faut que je raconte tout de suite, parce que maman, bien entendu, avait des amis, plus d'autres cousines directes, si ce n'est l'oncle Albert, qui était quand même de la génération supérieure, mais enfin des amis de pension, son ami Marcel Violet, qui était la propre fille de Madame Lachaise, chez qui ma grand-mère vivait encore à Istanbul. Donc voilà, tout de suite, voilà des façons de pénétrer dans le pays par des connaissances. Et un cercle de Français d'Orient qui se retrouvent. Il y avait une famille caporale qui n'était pas la même que celle qui était établie à Smyrne depuis des générations, mais enfin qui cousinait avec, donc pays de connaissance pour tout cela. Des gens qui avaient des maisons, qui étaient installés, qui étaient dans le pays depuis 40-50 ans, qui nous faisaient connaître d'autres personnes, mais toujours dans le même esprit, l'esprit Français d'Orient.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.